cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Étienne de la Vessière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques, le CETOBAC, et vous venez de publier un ouvrage absolument majeur intitulé Asie centrale, 300-850, le Haut Moyen-Âge, donc des routes et des royaumes, un ouvrage paru au Belles Lettres. Alors pourquoi majeur? Parce que on peut même dire qu'il s'agit comme d'une exclusivité mondiale, parce que c'est la première fois qu'un ouvrage fait la synthèse des connaissances sur le sujet et la période, ceci sous tous les aspects politiques, économiques, religieux, sociologiques, etc. Autant dire un ouvrage donc unique au monde, c'est le premier du genre. Nous entamons avec vous une nouvelle série de nos cours d'histoire consacrés à l'Asie centrale. Nous verrons la semaine prochaine ce qu'est la fameuse route de la soie. Nous verrons ensuite dans deux semaines la fin de ce réseau d'échanges. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie en Asie centrale au Haut Moyen-Âge. Mais avant tout, Étienne de la Vessière, une remarque préliminaire sur votre ouvrage. Vous commencez votre récit par un avertissement au lecteur. Rien, lui dites-vous, ne sera familier et vous lui demandez d'accepter d'être dépassé.
Oui, mon but dans ce livre était de parvenir à combler un énorme manque, un trou. On a des nombreux ouvrages sur la Chine, sur Byzance, sur l'Inde même, sur l'Iran. Et au milieu de tout cela, il n'y avait rien. Et il n'y avait rien pour de très bonnes raisons, tout simplement parce que il faut conjuguer des sources, des méthodologies très différentes, mais aussi parce que c'est très difficile d'accès. Tout le monde connaît le nom de Samarcande, les Pamirs, la Caspienne, mais de multiples lieux, de multiples déserts, de multiples fleuves, de multiples oasis sont très mal connus. Et donc j'ai voulu encourager le lecteur à ne pas se laisser dépasser par ces noms, par cette toponymie, et d'aller jusqu'au bout de l'ouvrage pour que ce morceau de puzzle, du puzzle de l'Asie et de l'Eurasie médiévale lui soit révélé.
Alors, point d'ancrage malgré tout, votre ouvrage s'ouvre par la retranscription d'une lettre, celle d'un marchand du nom de Nanaï Vandak, je ne sais pas si je prononce correctement, cette lettre évoque un peuple que nous connaissons bien, les 1. En quoi cette lettre est représentative de votre sujet?
Cette lettre est sans doute peut-être le document le plus important de l'histoire du IVe siècle. Pour deux raisons. D'une part, c'est le premier document interne de la route de la soie. C'est le premier document dans lequel on voit des marchands caravaniers nous parler de ce qui se passe pour leur commerce et pour la situation politique plus globale sur la route de la soie. Donc pour l'histoire économique, son importance est absolument majeure. Mais c'est aussi un document central pour l'histoire politique, tout simplement en raison de ce terme de « 1 ». Car le marchand qui écrit cette lettre, Nanaï Vandak, vous avez bien prononcé, décrit des événements qui se déroulent alors au nord de la Chine, où les palais impériaux sont pillés, où l'empereur est capturé par des soldats que les Chinois nomment Xiongnu. Or, les Xiongnu étaient les adversaires de la steppe au nord de la Chine qui luttaient contre l'Empire chinois depuis le IIe siècle avant notre ère. Et le fait que notre marchand utilise le mot de « un » pour les décrire montre qu'il y a une continuité entre ces Xiongnu qui dominent le nord de la Chine entre le deuxième et le avant et le deuxième après, et qui ensuite vont former des groupes moins puissants, et les Huns qui arrivent en Europe orientale à peu près vers 370.
Alors, cette lettre est importante parce qu'elle est unique. Est-ce à dire que l'archéologie prend le dessus sur les textes quand on étudie l'Asie centrale entre 300 et 850?
Tout le jeu est d'arriver à les combiner en fonction de ce que l'on a. Tout le jeu dans un espace pour lequel, qui est quand même gigantesque, hein, ce sont plusieurs millions de kilomètres carrés sur plusieurs siècles, mais avec des trous, des manques dans les sources énormes. Je peux avoir des oasis pour lesquelles je n'ai rien pendant deux siècles. Et puis brusquement, j'aurai beaucoup de données. Donc tout l'enjeu est d'arriver à tisser ensemble toutes ces sources. Parfois, c'est l'archéologie qui va dominer. Parfois, ce sont les textes. Et le cas le meilleur, c'est lorsque j'arrive à combiner les deux.
Nous avons précisément beaucoup de textes.
Nous avons surtout des textes divers. Nous avons, comme je viens de le dire, il peut y avoir des manques énormes, des siècles anciens qui ne sont pas couverts. Par exemple, la fin de notre période, alors qu'on aurait tendance à penser que plus c'est récent, plus on sait de choses. Et bien en fait, on sait beaucoup moins de choses sur la période 750-850 que sur la période 650-750. Mais donc, il y a vraiment des variations énormes dans la quantité de sources. Mais l'intérêt, c'est que ces sources sont très diverses. C'est-à-dire que lorsqu'un texte chinois et un texte arabe vous raconte la même chose à propos d'un événement qui se passe en Asie centrale, vous êtes sûr d'être en présence d'un fait historique. Car ces sources sont totalement indépendantes.
Nous sommes au cœur de combien de civilisations?
Oh là là, trop pour les compter. Nous sommes sur la périphérie de plusieurs très grandes civilisations, celle de la steppe, de la Chine, de l'Inde et de l'Iran. Et l'Asie centrale elle-même abrite, je ne saurais même pas les compter, au moins 8 groupes linguistiques différents, 9 groupes linguistiques différents. Chaque oasis peut être en fait un milieu tout à fait spécifique, une langue spécifique, une religion spécifique.
Alors, vous utilisez le terme d'oasis, c'est pas l'oasis dans Tintin et le crabe aux pinces d'or, hein, c'est pas le petit oasis dans le désert, ce sont des oasis absolument immenses avec des milliers de personnes.
Alors, plus exactement, ce que l'on connaît bien, ce sont les oasis immenses avec des centaines, parfois des centaines de milliers de personnes. J'ai réussi à faire un calcul, par exemple, pour l'oasis de Merv, qui se trouve au Turkménistan actuel.
On en reparlera.
Et on arrive à 500 000. L'oasis peut nourrir jusqu'à 500 000 de personnes. Mais à côté de cela, il y a aussi de toutes petites oasis qui vont d'ailleurs parfois disparaître durant cette période.
Alors justement, c'est un des atouts de votre ouvrage, c'est que il est d'abord richement illustré, et puis deuxièmement, il y a des cartes. Et ces cartes ont une histoire. Quelle est cette histoire que vous évoquiez avant cette émission pour leur réalisation?
Cela a été très compliqué parce que les photos aériennes ou les cartes que vous trouvez dans les atlas, même dans les atlas historiques, en général, sont construites, ces images sont construites sur les réalités physiques actuelles. Or, le milieu physique de l'Asie centrale a beaucoup changé. De nombreux oasis ont été étendus au XXe siècle, tout simplement grâce aux grands travaux d'irrigation chinoise ou soviétique. De même, des fleuves ont pu totalement changer de cours. La Moudaria, par exemple, se jette parfois dans la mer d'Aral, mais parfois dans la Caspienne. Il a fallu donc redessiner des cartes dans lesquelles on a réduit fortement la taille des oasis en fonction des données archéologiques souvent que l'on avait pour cette période, redessiner des fleuves, redessiner des lacs, supprimer tous les lacs de barrage. Ça semble évident, mais un très grand nombre de cartes historiques, en fait, utilisent des fonds de cartes qui comportent des barrages contemporains. Donc ça demandait un énorme travail.
Alors autre, et puis après je vais clore le chapitre de la présentation générale de votre ouvrage, les limites chronologiques. Pourquoi ces limites chronologiques de 300-850? Alors nous savons que les limites chronologiques de notre Occident, de notre Occident médiéval, elles peuvent avoir un côté artificiel. C'est toujours très difficile d'avoir des limites chronologiques. Vous, elles correspondent à quoi exactement?
Alors, le 300 correspond, la première moitié du IVe siècle, correspond justement à cette période durant laquelle des grandes invasions vont traverser toute l'Asie centrale et dont l'aboutissement, sera l'arrivée des Huns en 370 sur la, sur la Volga. Donc c'est la fin d'un monde, si vous voulez, la fin d'un monde antique qui avait été marqué par la présence grecque, par un grand empire qui était en Afghanistan actuel, l'empire Kouchan. Et ce monde s'effondre durant la première moitié du IVe siècle. Et la lettre de Nanaï Vandak est le premier signe en justement mentionnant les Huns. Et 850, tout simplement parce que c'est à ce moment-là que simultanément deux grands empires centra-asiatiques disparaissent, l'empire tibétain d'une part et l'empire ouïghour qui alors est en Mongolie, à peu près simultanément, mais aussi à l'ouest, c'est le moment où les dernières résistances face à l'islamisation s'effondrent elles aussi. Donc j'ai voulu, si vous voulez, enjamber la coupure beaucoup trop classique entre périodes pré-islamiques. L'islam arrive vers entre 650 et 750 dans cette région, et la période islamique, pour au contraire accentuer les phénomènes de longue durée, voir comment cette société évolue sur 5 siècles et se transforme.
Alors, je me permets de comparer par rapport à l'Occident. L'Occident médiéval se situe clairement sur une carte, tout comme l'Orient médiéval. L'Asie centrale, c'est un espace géographique considérable, avec une mosaïque de peuples, mais une des particularités de cet espace, ce sont précisément les immensités désertiques, ces espaces vides, ce compartimentage, selon votre expression. Est-ce qu'ils ne remettent pas en cause l'idée même d'Asie centrale ?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que l'Asie centrale existe pendant certaines périodes et n'existe pas pendant d'autres périodes. Durant certaines périodes, l'Asie centrale n'est qu'une sorte d'espace intermédiaire entre des empires voisins et n'a pas d'identité propre, n'a pas de... Et ce qui lui donne son idée, ce qui fait qu'elle fonctionne, qu'on peut la définir comme étant Asie centrale, c'est lorsque les circulations sont en place et lient toutes ces régions, tous ces oasis, toutes ces steppes ensemble et ne dépendent pas uniquement des empires sur les côtés, si vous voulez, de l'Asie centrale. Et la période, donc après les grandes invasions du 4e siècle, on va dire, entre le 4e siècle et le 8e siècle, vont se mettre en place des circulations extrêmement intenses d'est en ouest, du nord au sud, qui font que l'Asie centrale existe.
Et cette notion d'Asie centrale, on imagine qu'elle n'apparaît pas dans les textes, mais est-ce qu'il y a une notion d'identité un peu qui correspondrait à ce qu'on appellerait, nous, la Christianitas, là, ce serait, un espace géographique lié au monde économique, lié aux échanges, lié à une domination politique ?
Il y a un espace politique lié à la domination turque, incontestablement. L'Empire turc, est durant cette période, qui est alors en Mongolie, les Turcs n'arrivent
en Turquie
qu'au 11e siècle. Il est alors en Mongolie et il est incontestable qu'une très grande partie de l'Asie centrale se considère comme sujette ou faisant partie de l'Empire turc de Mongolie. Ça, c'est incontestable. En revanche, je ne connais pas de texte décrivant l'Asie centrale comme entité économique, si vous voulez. On voit les circulations, elles sont là, mais il n'y a pas de texte qui les reconnaisse comme telles, comme formant un espace séparé. En revanche, il y a un texte chinois très très intéressant. Vous savez que Zhongguo, l'empire du milieu, enfin le pays central, il y a un texte très intéressant dans lequel un narrateur chinois décrit la région de Samarcande, si vous voulez, et un peu dépité dit: eux, ils sont vraiment au centre du monde.
Alors, ce centre du monde, précisément, est dominé, c'est le début, en fait, de votre livre, par la question du climat. On parle des immensités, de la géographie, mais tout est lié aussi au climat, et donc à la maîtrise d'un élément essentiel qu'est l'eau. Et ce n'est pas un hasard si toute votre première partie, vous l'avez intitulé « Les maîtres de l'eau ». Il faut pouvoir dominer l'eau pour vivre dans ces espaces.
Tout à fait. Dans l'oasis de Turfan, par exemple, qui se trouve au Xinjiang chinois actuel, les températures d'été sont entre 50 et 60 degrés. Il est absolument impossible, dans un grand nombre, pas tous, mais un grand nombre de ces oasis, de vivre tout simplement, d'avoir une agriculture, si on ne maîtrise pas l'irrigation. Et donc, si on ne maîtrise pas l'eau, il ne pleut pas en été en Asie centrale, ni même au printemps. Il pleut en hiver. Et donc, c'est l'eau qui est stockée dans les neiges et les glaciers qui va permettre d'alimenter les canaux pour les périodes de croissance végétative, c'est-à-dire le printemps et le début de l'été. Donc, la maîtrise de l'eau est absolument essentielle. Si on ne maîtrise pas l'eau, les oasis n'ont qu'une vie extrêmement pauvre et ne peuvent pas se développer. Et on a un très bon exemple. On a au Turkménistan, donc la ville de Merv, dont je vous ai déjà parlé, l'oasis de Merv, très grosse oasis, 500 000 personnes.
Qui est, quand on regarde la mer Caspienne, on prend le sud de la mer Caspienne et qui est à 500 km au sud de la mer Caspienne.
Et il y a un oasis qui est parallèle, qui est l'oasis de Sarax. Ils dépendent tous deux de rivières venant du même massif montagneux. Simplement, il y a une rivière qui est très bien aménagée, qui est celle de Merv, avec un immense barrage, et ça donne un oasis de 500 000 personnes. À côté de ça, il n'y a pas de site pour un barrage pour l'oasis de Sarax, et ça donne un oasis qui ne compte pas dans l'histoire.
Alors, l'irrigation est au centre des préoccupations des hommes, et vous montrez bien que les implications, elles ne sont pas seulement économiques, elles sont aussi politiques. Il y a une question juridique. Comment gère-t-on l'eau? Qui a accès à l'eau? Comment doit-on entretenir les canaux, etc.?
Un bon gouverneur qui arrive dans une ville, une des premières mesures, on a plusieurs exemples, ça va être de réexaminer les droits à l'eau. C'est-à-dire, comment, en général, lutter contre l'accaparement des droits à l'eau par les citoyens les plus riches. Donc l'eau est vraiment centrale. L'eau se vend. On va vendre un temps d'ouverture du canal, par exemple. Et en contexte politique, on constate que les responsables de l'irrigation ont bien souvent plus d'hommes à leur service que les gouverneurs militaires de telle ou telle oasis. Tellement c'est central. La vie de ces oasis est totalement rythmée par l'entretien des canaux, l'entretien des digues, leur recreusement, parce que l'Asie centrale est un pays, c'est une région de terre, de leuse, de extrêmement fine, qui va s'accumuler dans les canaux. Et donc, une grande part du travail agricole chaque année, ça va être de curer les canaux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on les trouve archéologiquement. Parce que, archéologiquement, on ne les voit pas, les canaux. Ce qu'on voit, ce sont les levées de terre de chaque côté qui correspondent à des centaines d'années de curage. Et politiquement aussi, on constate que le contrôle de l'eau des canaux peut être un élément décisif dans la victoire militaire. Par exemple, on a un gouverneur arabe qui assiège Samarcande et qui va, de sa propre main, nous dit le texte, lancer des pierres dans le canal qui alimente la ville pour assoiffer ses habitants.
Est-ce qu'on peut parler, pour la période, d'une prospérité agricole?
Oui, très certainement. Il y a eu des très nombreux travaux de paléoclimatologues qui ont, par exemple, analysant les strates de stalactites ou stalagmites, analysant des carottages au fond de la mer d'Aral ou au fond de tel ou tel lac centra-asiatique. Et on arrive à un modèle faisant de la période 400-800 une période de prospérité, disons, une période climatiquement assez favorable. Qui a été précédé par une période de grande sécheresse et qui va être suivi par une période de grande sécheresse.
Est-ce qu'on... parlons des populations, si vous le voulez bien, sont des populations d'éleveurs, des moutons, des chevaux en dehors du travail de la terre?
Oui, il faut... Les populations des centrales sont toujours... Il y a deux grands métiers. Il y a le métier d'agriculteur, dans ces terres d'agriculture irriguée, comme je l'ai dit, avec tous ces travaux agricoles à mener, année après année. Mais il y a parallèlement, sur les périphéries de tous les oasis, et surtout au nord, dans la steppe du Kazakhstan actuel, ou de la Mongolie actuelle, ou du nord du Xinjiang actuel, il y a les éleveurs nomades, même si le terme nomade recouvre en fait des catégories extrêmement diverses, qui ont toujours à la fois des moutons et des chevaux dans des proportions diverses.
Nomades sédentaires, ce sont deux mondes qui se juxtaposent, c'est une sorte de fil rouge de votre ouvrage.
Oui, ils sont toujours présents, mais... En disant juxtaposant, on a l'impression qu'ils sont séparés. Alors qu'en fait, il y a plein d'entremêlements, il y a plein de contacts. C'est-à-dire que dans un milieu aussi difficile que l'Asie centrale, En cas de sécheresse plusieurs années de suite, une partie de la famille, par exemple, va se tourner vers le nomadisme et va abandonner l'agriculture. Et s'il y a de nouveau de l'eau, on va retourner à l'agriculture. On a des exemples d'études archéologiques très précises sur ça, pour le delta de la Moudaria, par exemple.
Oui, vous décrivez un monde complexe, un monde d'échange, un monde divers, un monde aussi très hiérarchisé.
Oui, il y a vraiment une noblesse centra-asiatique qui va multiplier les châteaux dans tous les oasis. Même actuellement, si vous prenez un petit avion en Ouzbékistan et que vous survolez les paysages de l'Ouzbékistan, vous verrez plein de petits monticules de terre dans le paysage. En fait, ce sont les châteaux de cette époque. Les restes des châteaux, ce sont des tépés archéologiques, des tels, les restes archéologiques de ces châteaux qui étaient construits en terre et donc qui ont simplement fondu dans le paysage. Donc il y a une noblesse centra-asiatique terrienne, mais il y a aussi une noblesse nomade qui domine la précédente, qui, elle, vit souvent à la périphérie des villes ou dans la steppe.
Ça ressemble ces châteaux ressemblaient au pisé marocain?
Oui, c'est ça, c'est une sorte de pisé, oui. On appelle ça le Parsa, en Asie centrale.
Alors, est-ce que c'est un peuple qui a une part, enfin des peuples, qui ont une part de résilience face précisément aux guerres, face aux famines, face aux épidémies, mais surtout face à un climat qui est assez rude, au fond?
Oui, c'est-à-dire en multipliant les modes d'exploitation des richesses naturelles, si vous voulez, ils ont trouvé un moyen de d'échapper à plus ou moins à ces variations du climat. Mais je pense que l'un des apports du livre, c'est de montrer à quel point ce constat, on doit le différencier en fonction des milieux naturels. Et par exemple, la situation dans les grandes oasis n'est pas du tout celle dans les petites oasis. Par exemple, à Boukhara, grand oasis, il y a tellement d'eau que, au-delà de Boukhara, en aval de Boukhara, il y a un grand marais où l'eau vient s'accumuler. En revanche, dans plein de petits oasis, toute l'eau est consommée. Donc, lorsque toute l'eau est consommée, vous devez avoir une sacrée résilience pour lutter contre les années où il n'y a pas assez d'eau. Il faut se tourner vers d'autres métiers. C'est pas la même chose au cœur d'une très grande oasis où vous savez que chaque année, il y aura de l'eau.
Alors, comment naît le grand commerce asiatique? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine, Étienne de la Vessière. Merci beaucoup.
Merci.
D'être venu à notre micro Asie centrale 300-850 des routes et des royaumes. Un ouvrage absolument indispensable paru aux éditions Les Belles Lettres. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre cours d'histoire sur l'Asie centrale.